franceinter.fr.
Voilà, et comme pour faire écho, et c'est le hasard, au prix Nobel de littérature de Svetlana Alexievitch qui a écrit sur l'après Tchernobyl, eh bien, on apprenait cette semaine que la faune sauvage autour de la centrale se portait plutôt bien, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Sacha, combien de chevaux y a-t-il à Tchernobyl maintenant?
Aujourd'hui, 50 têtes à peu près, sans compter les jeunes de cette année.
Je pense que c'est un paradis ici pour les chevaux.
Voilà, une étude internationale parue lundi dans la revue Current Biology estime que la faune dans la zone interdite autour de la centrale de Tchernobyl se porte plutôt bien, quasiment aussi bien que dans les parcs naturels environnants, c'est-à-dire beaucoup mieux qu'avant l'accident en 1986. Bonjour Thierry Langagne.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en écologie comportementale au CNRS, au sein de l'Université Lyon 1. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Tchernobyl est devenu un paradis pour les grands mammifères?
Eh bien, le mot paradis n'est probablement le terme exact, car je pense qu'il faut faire la distinction entre des espèces qui sont présentes et qui redeviennent abondantes et des espèces qui sont en bonne santé, et c'est deux notions qui sont assez différentes.
Axel ?
On parle de la bonne santé des animaux en les comptant hein, par des observations aériennes, mais est-ce qu'on est certain de leur réelle bonne santé dans cette zone ?
Non, pas du tout. En fait, on ne parle pas de bonne santé en comptant les animaux, mais simplement en comptant les animaux, on a accès à la quantité d'animaux qu'il y a sur la zone de Tchernobyl. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'animaux qu'ils sont en bonne santé. On sait en biologie qu'il y a des populations qu'on appelle les populations puits, où les animaux viennent dans une zone parce qu'il y a moins de contraintes, et en particulier moins de contraintes liées à l'activité humaine comme la chasse ou l'agriculture. Mais ils viennent aussi dans une zone qui a d'autres contraintes comme par exemple des niveaux de radiation élevés. Et dans ces zones-là, les animaux vont y venir, donc on va les compter de plus en plus nombreux, mais ils y viennent en quelque sorte pour y mourir, quoi.
Alors donc on parle des grands mammifères, les élans, les cerfs, les chevreuils, les sangliers, les loups, donc qui seraient de nouveau abondants. Ils sont mentionnés dans cette étude parce que ce sont les plus faciles justement à repérer, Thierry Langagne ?
Oui, ils sont faciles à repérer, ils sont d'autant plus faciles à repérer qu'on a des techniques scientifiques qui permettent d'effectuer des comptages soit par les airs via hélicoptère ou soit par la route, et qui sont des techniques qui permettent d'avoir une très bonne répétabilité de l'information. Donc c'est assez précis comme méthode.
Quels sont les effets connus des radiations 30 ans après sur des espèces qui tentent de s'installer comme ça dans des régions contaminées?
Ah ben, les effets des radiations sont très importants, puisque si on peut les voir à différentes échelles, il y a des effets au niveau des écosystèmes, puisqu'on sait que les radiations provoquent des modifications de la végétation et donc des capacités que vont avoir les animaux à se nourrir derrière. Il y a des effets au niveau de l'organisme sur le comportement même des animaux. Et moi, j'étudie particulièrement les comportements liés à la reproduction, comme les systèmes de communication. Il y a également des effets à un niveau intra-individuel, cette fois-ci, sur la physiologie des animaux, en particulier ce qu'on appelle le stress oxydant. Et il y a même des effets au niveau intracellulaire sur la génétique, avec des mutations qui sont liées aux mutations. Donc on a une cascade d'effets qui vont de l'écosystème à l'ADN, en fait.
Alors Axel, vous avez discuté ce matin avec le réalisateur Luc Riolon, qu'on avait reçu dans l'émission et qui avait filmé ces animaux en 2009 pour son film Tchernobyl, une histoire naturelle.
Et vous allez l'entendre, il n'a pas été complètement surpris par ces nouveaux résultats.
Je suis ravi que ça confirme ce que moi je racontais dans mon film à l'époque. Certains scientifiques avec qui j'avais travaillé disaient qu'effectivement, c'était pas les radiations qui étaient les pires à Tchernobyl, bien qu'on puisse pas dire que ce soit bon pour la santé, c'est sûr. Mais en l'occurrence, il était clair, et c'était la conclusion de mon film, que le pire dans tout ça, c'était en fait la pression de l'agriculture, puisqu'à l'époque, les soviétiques utilisaient beaucoup de l'engrais, de pesticides, etc. Donc, c'était très très mauvais pour la population et la biodiversité. Et deuxièmement, il y avait beaucoup beaucoup de cultures de forêt. Ils avaient poussé un seul arbre, et donc très très peu de biodiversité. Quand les hommes sont partis, ça a permis effectivement de redonner la place à la nature, sans l'homme.
Ces travaux sont internationaux, là, publiés dans une revue américaine. Il y a une raison scientifique pour laquelle l'information arrive en deux temps, comme ça?
Et moi, quand j'ai fait mon tournage, il y avait déjà des publications, mais qui n'existaient qu'en russe. Et le scientifique avec qui je travaillais, Sergei Gachak, m'avait montré ces publications en me montrant les tableaux avec le comptage des mammifères dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et il me disait, mais je comprends pas, quand je les montre à mes collègues américains, ils n'en tiennent absolument pas compte. parce qu'ils considèrent que ça n'existait pas et que ces études faites par à l'époque de l'Union soviétique et donc par des Russes, des Bélarusses et des Ukrainiens ne valent rien en fait, tout simplement parce qu'elles sont en russe et qu'elles n'ont jamais été traduites.
Qu'est-ce qui vous avait le plus marqué en observant longuement cette faune ?
Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'étude de Robert Becker, donc un généticien de la Texas Tech Université, donc au Texas, qui avait étudié la résistance des souris, donc des petits mammifères très semblables à l'homme, hein, puisqu'on a quasiment le même patrimoine génétique, la résistance aux très fortes radiations, puisque ces souris, il les a étudiées très très proches du réacteur nucléaire, donc là dans une zone qui est en fait très irradiée. Et ces souris, en fait, ont développé des défenses immunitaires qui leur permettent de lutter contre les dégâts liés à la radioactivité, c'est-à-dire le découpage en petits morceaux des molécules et donc des gènes. Et ces souris ont réactivé des gènes qui étaient endormis et qui permettent de se défendre contre les effets de la radioactivité et donc de survivre. Donc elles étaient en très très bonne santé.
Le réalisateur, donc Luc Riolon, Thierry Langagne, ces mécanismes de défense contre les radiations, la science les connaît bien aujourd'hui ?
Non, pas du tout. C'est des mécanismes qui sont encore probablement largement inconnus. Et il est certain que des catastrophes comme Tchernobyl ou plus récemment Fukushima, même s'il faut bien savoir que ce sont des catastrophes en termes humains et en termes économiques, ça peut aussi être des portes ouvertes pour la science et pour les études, pour comprendre justement les phénomènes de résilience des espèces et comment est-ce que certaines espèces peuvent parfois s'adapter à certains types de radiations.
Et Thierry Langagne, justement, vous avez travaillé autour de la centrale de Fukushima en 2013. Est-ce que la situation pour la faune est comparable entre les deux villes, Fukushima et Tchernobyl ?
Ça, c'est un petit peu difficile à dire, puisque donc forcément, il y a eu quasiment 30 ans entre les deux catastrophes. Et simplement, à l'époque de Tchernobyl, c'était l'époque de l'URSS, il était très difficile pour les chercheurs d'aller sur place rapidement pour voir les effets au fur et à mesure et avoir une dynamique de l'observation, alors que lorsque la catastrophe est arrivée au Japon, qui est un pays démocratique, il a été possible assez rapidement pour des chercheurs de se rendre sur place et on aura une meilleure connaissance de cette dynamique liée à la catastrophe et l'impact de cette catastrophe sur la biodiversité.
Il y a un autre point que cette publication soulève, c'est que dès que l'homme s'éclipse, la nature revient, peu importe le danger en fait.
Alors c'est peut-être pas peu importe le danger, mais clairement, ça montre bien, en tous les cas ça suggère fortement que l'homme et l'action de l'homme, que ce soit via les milieux agricoles, l'agriculture intensive ou via la chasse, c'est-à-dire une action encore plus directe sur la biodiversité, ça montre bien ou ça suggère fortement que cette action de l'homme, elle est très forte, puisque dès qu'on la relâche, eh bien les animaux sont capables de revenir, même si c'est sur des environnements qui ont d'autres contraintes comme les radiations.
En tout cas, merci beaucoup Thierry Langagne. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces thèmes très riches, on peut citer un colloque en région Rhône-Alpes, agriculture et biodiversité, qui est organisé par la LPO Rhône-Alpes. Ça se passera au lycée agricole du Valentin dans la Drôme les 26 et 27 octobre prochains. Merci beaucoup à vous pour vos explications.
Merci à vous.
Bonne journée. Axel, merci. Puis on rappelle bien sûr qu'on peut réécouter cette une de la science comme tous les jours.
Comme toutes les unes, tous les jours, un podcast en plus du dossier sur le site franceinter.fr.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest qui vient de terminer sa première semaine sans nouveau cas d'Ebola depuis le début de l'épidémie en mars 2014. Ebola qui a déjà fait 11 312 morts. Les trois pays les plus touchés par la maladie, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, viennent donc de vivre cette première semaine de trêve. Il faudra encore attendre 42 jours son nouveau cas d'Ebola pour déclarer la fin totale de l'épidémie. Le géant américain de l'agroalimentaire ébranlé, le très critiqué Monsanto, a vu ses bénéfices chuter de 15,5% en un an au cours de son dernier exercice fiscal. Affecté par la chute des prix des produits agricoles, le roi des semences transgéniques a annoncé la suppression de 2600 emplois dans les 18 à 24 mois prochains. Et puis pour terminer, la fête de la science qui a commencé hier, cette édition 2015 met à l'honneur la lumière, mais également le climat, à moins de deux mois de la COP21. Des centaines d'animations partout en France vont s'enchaîner jusqu'au 11 octobre pour mieux comprendre la science et ses enjeux. Pour plus d'informations sur les événements et les lieux de rendez-vous, vous pouvez faire un tour sur fetedelascience.fr. Il y a forcément des événements près de chez vous.